France Culture.
Et la radio ? Ils disent que la guerre est bientôt finie.
Encore ? C'est tout ?
C'est tout, oui.
C'est une façon de vivre, soldat, c'est pas juste un métier. C'est austère, la camaraderie.
Et c'est une vocation.
C'est mieux si c'est une vocation.
En fait, on forme pas nos soldats, on forme nos futurs frères d'armes.
Mon lieutenant, faut manger pendant que c'est chaud.
Tu vas vivre des expériences et faire des choses que tu ne referas plus jamais. Tu n'auras jamais l'occasion de faire ailleurs.
Boot !
Sortir du civil et rentrer du jour au lendemain dans l'armée, c'est un nouveau monde. Hein.
Rompez les rangs.
Colonel Jean Michelin, être militaire, c'est un métier comme un autre.
Non, pas du tout.
Évidemment, quand on s'engage dans l'armée, on sait qu'a priori, c'est pour faire la guerre, en fait. C'est pas pour remplir les tableaux Excel aux Invalides.
C'est un métier extraordinaire au sens littéral, c'est-à-dire qu'il sort de l'ordinaire.
J'aurais rêvé d'être militaire, par Adrien Mora et François Test.
À vos ordres, mon commandant !
Premier épisode, se rêver soldat. Je suis né en 1989, 15 jours après la chute du mur de Berlin. Pour la guerre froide, c'était le début de la fin. Trop jeune pour me souvenir de la première guerre du Golfe ou de celle d'ex-Yougoslavie, j'ai grandi avec l'idée que la guerre était une chose du passé, qui n'a sa place que dans les livres d'histoire. Je l'ai su dès l'âge de 6 ans, je ne ferai pas de service militaire. Et pourtant, je fais partie d'une génération qui a beaucoup fait la guerre, sur un écran d'ordinateur ou avec une manette de PlayStation. Je me suis imaginé soldat en tirant des milliers de balles dans Medal of Honor. J'ai déplacé des régiments dans le monde entier en jouant à risque. Et je me suis rêvé en héros en regardant des films de guerre hollywoodiens comme des milliers d'adolescents. Certains d'entre nous sont devenus soldats et ont combattu pour de vrai. C'est le cas de trois camarades de ma classe de seconde que j'ai connus en 2002 au lycée Jean Mermoz de Montpellier. J'ai retrouvé Gadiel et Rémi, mais également Jonathan, Timothée, Émilie Guillaumin, Jean Michelin et Laetitia Saint-Paul, des militaires de cette même génération. Qu'est-ce qui les a poussés à devenir soldats? C'est quoi la vie d'un militaire? C'est quoi la guerre? Tout débute à Épinal où je retrouve Gadiel, que je n'ai pas vu depuis 20 ans. Il est en uniforme avec son béret bleu et me dépasse toujours de deux têtes. Ça, ça n'a pas changé.
Bah, ça va.
20 ans ont passé, quand même.
Ah ouais.
Et te voilà, faut t'appeler capitaine maintenant.
Oui. Ça a changé.
Donc, je suis le capitaine Gadiel. Je suis marié, j'ai trois enfants. Et je me suis engagé dans l'armée en 2008. Ici, au 1er régiment de tirailleurs, le soldat est appelé tirailleur quand il n'a pas encore de galon porté sur la poitrine. Ensuite, il passe soldat de première classe. Son premier grade, c'est le grade de caporal, pour arriver jusqu'à caporal-chef. Ensuite, on arrive dans la catégorie des sous-officiers, qui commence par le grade de sergent, pour ensuite passer sergent-chef, adjudant, adjudant-chef, puis major. Ensuite, on arrive chez les officiers, avec les grades d'aspirant, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine. Et ensuite, la partie officier supérieur commence au grade de chef de bataillon, donc commandant, lieutenant-colonel, colonel, puis officier général. Donc moi, je commande une compagnie de combat dans un régiment d'infanterie et j'ai aujourd'hui sous mes ordres un peu plus de 150 soldats.
Donc moi, je suis Rémi, j'ai 37 ans. J'ai été dans l'armée de 2007 à 2012. C'était des contrats de 5 ans à l'époque, on appelait ça EVAT. Engagé volontaire de l'armée de terre. Donc je suis rentré au 27e bataillon de chasseurs alpins, chasseur de deuxième classe. Quand j'étais enfant, oui, je rêvais d'être militaire. Ouais. J'adorais les séries, les films de guerre avec des soldats, les moments de camaraderie, les moments d'instruction, tout ça. J'adorais cet univers-là. C'était le côté humain qui me plaisait. C'est pas le côté guéguerre, les pistolets, tout ça. C'était surtout le côté humain, l'expérience humaine de camaraderie qui était transposée dans les films ou les séries qui m'a tiré.
Que t'as des souvenirs de films ou de séries ou de jeux vidéo qui sont marquants pour toi?
Ouais, je me souviens de la série Band of Brothers. Il y a un film que j'avais beaucoup aimé, un vieux film français. C'était la 317e section. C'est un vieux film, c'est en noir et blanc. Hein. Et ça, c'était un super film, ouais, j'avais beaucoup aimé.
Un fumigène, ils règlent leur mortier. Pas mal. La suite, c'est pour nous. Allez, on les laisse là et on aura encore de la veine si on s'en sort.
Adjudant, vous l'isdant. Nous partons avec les blessés. Coult reste en couverture et c'est tout. C'est un ordre.
Il y a un film américain qui est bien fait, c'est Jared. Jared avec Jake Gyllenhaal. Sur, c'est des Marines qui passent leur temps à attendre dans le désert avec s'il se passe quelque chose. C'est assez proche de l'expérience qu'on avait vécue en Afghanistan où en fait 95% du temps il ne se passe rien et c'est de la routine. Les gens, il y en a qui se prennent la tête avec les copines en France et qui. Ça, c'était assez similaire à Jared où il y avait beaucoup de prises de tête et tout. Et au final, assez peu d'action par rapport au temps passé sur place, sur le théâtre. Et. Il y a un film qui est bien fait aussi, je trouve, sur la. Mais ça va moins plaire aux officiers. C'est le film Les Sentiers de la Gloire, avec Kirk Douglas, de Kubrick, je crois, où des officiers, en fait, priorisent leurs ambitions personnelles sur les hommes. Et ça, malheureusement, c'est. Je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est des choses, quand même, qui se retrouvent, quand même, dans l'armée. On avait tendance à dire que l'armée française, c'est une armée faite par les officiers, pour les officiers. Et c'est quelque chose qui se, malheureusement, qui se ressent un petit peu.
Je suis le colonel Jean Michelin et je suis actuellement le chef de corps, le caïd, comme on l'appelle, du 1er régiment de tirailleurs à Épinal.
Et comment, Jean Michelin, enfant, votre image de soldat s'est formée à travers des œuvres culturelles ?
Ma découverte du métier des armes s'est faite par le prisme culturel et historique, c'est-à-dire par la lecture, par le cinéma. Un film qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais enfant, c'était Un pont trop loin. Et quand j'ai envie de faire la blague, j'ai tendance à dire que la vocation... de mon service des armes est lié pour moitié à des nanars odieux type Rambo 3 et à des documentaires, et notamment un documentaire que j'avais découvert quand j'avais 11 ou 12 ans sur une promotion de Saint-Cyr auquel je n'avais strictement rien compris. Mais j'avais trouvé le milieu, l'univers absolument passionnant. J'ai compris, je pense, assez vite qu'il y avait deux choses qui étaient centrales dans mon engagement et autour desquelles j'ai construit, je pense, une bonne partie de ma carrière. C'était d'abord la volonté de servir, de faire quelque chose qui soit désintéressé, de mettre au service d'une cause qui soit plus grande que moi, et la volonté de me confronter à la matière humaine. Moi, j'ai pas du tout eu d'appétence technique pour le métier. C'était vraiment les gens, et c'est resté les gens qui m'intéressaient. Ce qui explique sans doute d'ailleurs pourquoi est-ce que j'ai choisi de servir dans l'infanterie, qui avant d'être un système d'armes, est surtout un système d'hommes.
Quel métier tu rêvais de faire quand tu étais enfant ?
Mon père était fonctionnaire. Il a évolué de directeur de cabinet, sous-préfet, et fini... préfet chargé de mission. Bon, pourquoi pas cette voie-là. Ma mère était avocate, j'aimais bien parler, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas non plus. Et la bascule pour moi, ça a été en début d'adolescence, en regardant un reportage sur le 13e RDP, donc 13e Régiment de Dragons, qui est une unité de force spéciale, où je vois un mec complètement camouflé, avec un fusil, qui marche dans une espèce de rivière, enfin un petit cours d'eau. Et ce qui me marque, c'est ce soldat en train de s'infiltrer, son équipement, la préparation, l'hypervigilance dans laquelle il est, en train de regarder, mesurer chaque pas. Et après, il y a j'imagine le chef du petit groupe qui leur donne des ordres, sans un bruit. Chacun va faire ce qu'il a à faire. Et je me dis, ok, moi c'est... Un, je veux être le mec là qui est en train de s'infiltrer et qui est capable d'être en hypervigilance, de tout voir, un peu comme une série Sentinelle,
à l'époque, The Sentinel, hein, que le mec qui avait des sens hyper développés, qui entendait loin, qui voyait loin. Voilà, je veux devenir ce super-homme, quoi, qui va au bout de ses capacités physiques, mais je veux surtout être celui qui commande des super-mecs et qui lui-même en est un. Et c'est à partir de là, avant la fin du reportage, je me revois me relever du canapé, aller voir mes parents et dire, voilà, je veux être militaire.
Alors Rémi, en 2003, tu arrives au lycée Jean Mermoz, c'est là où on se rencontre, avec Gadiel, bienvenue aussi, et d'autres. Quand tu arrives au lycée Jean Mermoz, tu sais déjà que tu veux faire militaire ?
Oui, je sais que je veux, à ce moment-là de ma vie, je sais que je veux m'engager. Je sais que je veux m'imposer service militaire, et en fait, si tu veux, j'ai 15 ans à l'époque, je passe le temps. Maintenant, je passe le temps jusqu'à ce que j'ai 18 ans. Donc,
Et tes parents, ils réagissent comment à cette volonté de...
Je pense qu'ils y croient pas trop. Parce que, ils se disent, c'est une lubie, tu vois. Ça va lui passer. Voilà. Parce qu'eux, ils sont pas du tout branchés univers militaire. Donc, ils comprennent pas trop.
Ils font quel métier c'est...
Ma mère est infirmière. Et mon père est ingénieur. Ils y croient pas trop.
T'en parles au lycée avec Gadiel, par exemple?
Oui, Gadiel, c'était... je lui disais à l'époque que je voulais être parachutiste légionnaire. Je voulais aller à la Légion étrangère, à l'époque et tout. Donc, avec Gadiel, on s'appelait les paralégionnaires, c'était un peu notre truc. On voulait faire des missions commando, des fois on voulait passer par un mur au lieu de passer par l'entrée, donc on se faisait la courte échelle pour grimper sur... Je me souviens, une fois on était rentré à Joffre, au lycée Joffre qui était en face, mais qui était plus contrôlé que Mermoz à l'époque, parce qu'à l'époque le lycée Mermoz, en 2003, c'était extrêmement facile de rentrer quand on n'était pas du lycée. Joffre, c'était plus contrôlé. Joffre, il y avait des pions qui vérifiaient les cartes d'identité, les cartes de scolarité, tout ça. Donc on se faisait des missions comme ça, on va aller à Joffre, on va rentrer, genre un truc commando, quoi.
Jacques Chirac, 22 février 1996.
Le service militaire a été créé en 1905, comme vous le savez.
Oui.
À une époque où il fallait des poitrines à opposer à d'autres poitrines, si j'ose dire, face à un danger extérieur. Cette époque est complètement révolue. Nous n'avons plus besoin d'appeler de gens faisant leur service militaire.
C'est donc la fin d'une époque, la fin du lit au carré, la fin des Rangers bien briqués, des blagues de chambrée, des « oui mon capitaine, bien mon adjudant », la fin des 30 au jus brandis comme une victoire, des 0-0-0 chantés dans d'interminables soirées Cronenbourg. Jacques Chirac l'a annoncé hier soir à la radio et à la télévision, la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire, sera supprimée.
Soir 3, 23 février 1996.
Toi, tu penses qu'il faut garder le service?
Oui.
Obligatoire pour
quoi, quoi? Bah, c'est ouais. Bien. Hein. Bah, ouais, bah, s'il y a la guerre, tu te défends, moi. Tu restes pas dans ton lit à te cailler.
On sera des hommes, on apprendra à se battre.
Mais ce qui est chiant, c'est qu'on doit se...
On apprendra à se débrouiller tout seul.
Ce qui est chiant, c'est qu'on doit se faire la boule à zéro.
Timothée, je suis un ancien militaire. J'ai 41 ans. J'étais engagé dans les chasseurs alpins au 27. Et maintenant, je suis entrepreneur.
En 96, oui. Jacques Chirac annonce la fin du service militaire. Toi, tu as quel âge et tu en penses quoi à l'époque?
À l'époque, je ne me rendais pas compte, j'étais petit. Il y avait pas mal de gens, surtout la génération de mes parents, qui étaient plutôt contents. Mais non, la guerre, l'armée, on décidait des choses, on ne parlait pas spécialement à la maison, c'était pas les sujets, quoi. Ils étaient agriculteurs, on parlait beaucoup du travail.
Et toi, à l'époque, quand t'es enfant, adolescent, l'armée, la guerre, c'est quoi ton image de soldat, par exemple?
C'est plus, on va dire, quelque chose d'un peu épique. Un aventurier qui est prêt à combattre pour son pays, pour des valeurs que son pays aussi représente. Ouais, le côté aventure.
Sans qu'on me conditionne, mais c'était un peu dans ce qu'on m'avait expliqué, quoi. Ouais, tu iras à l'école, puis tu iras au collège, puis tu feras ton lycée, tu feras ton service, puis après tu feras des études, tu travailleras, quoi. Donc c'était dans mon cursus, quoi. C'était tracé depuis que j'étais petit. Donc moi, j'avais l'impression qu'on... Tu vois, bah, pourquoi ça change, quoi? C'est-à-dire que c'était pas bien avant, ou... Bon, donc une petite partie d'incompréhension. Et autour de moi, effectivement, les réactions plus mitigées. Certains heureux, d'autres... tiens, c'est dommage, je vais rater une expérience. Je vais rater quelque chose dans mon... Ce qu'on pouvait entendre à l'époque dans mon passage d'homme, quoi, dans ma vie d'adulte.
Faites un plaisir d'aller au service militaire. Chacun sait qu'à 20 ans, on n'a rien d'autre à faire. Que c'est le pied de marche comme un métronome. Que c'est la discipline qui vous fait un homme. C'est sur le quai de la gare, un festival de mouchoirs. Au revoir, au revoir, c'est le chant du départ. Et 20 petits soldats.
Bénédicte Chéron, vous êtes historienne. Le 22 février 1996, le président Jacques Chirac annonce la suspension du service national. Est-ce que c'est une surprise ?
Il faut quand même avoir en tête que depuis les années 1960, les ministres successifs savent bien que le service militaire universel obligatoire ne pourra pas continuer de fonctionner comme il a fonctionné dans la première partie du XXe siècle, parce que la dissuasion nucléaire a en fait profondément transformé le modèle de défense français. L'idée qu'on a moins besoin d'exposer une armée de masse à nos frontières pour protéger le territoire, c'est vraiment ancré dans le modèle des défenses français. Et puis par ailleurs, il y a une modernisation des équipements, une modernisation des armements. Et on est aussi, il faut en avoir conscience, dans un contexte de contraintes budgétaires. Et même si ça n'est pas du tout annoncé sous cet angle-là, en fait, entretenir des classes d'âge d'appelés, en fait, les entraîner, ces classes d'âge d'appelés, dans de bonnes conditions, c'est extrêmement coûteux. Et donc, il y a un petit calcul qui est fait qui montre que finalement, pour un coût équivalent ou un peu inférieur, on peut faire vivre une belle armée professionnelle. On a tendance à penser, parce que c'est une vision qui est très politique du service militaire, que le service militaire a fabriqué de la cohésion nationale en France et qu'il en a fabriqué tant qu'il a existé. Or, toute l'histoire du service militaire, déjà dans l'entre-deux-guerres, mais encore plus après la fin de la guerre d'Algérie, après la fin des années 60, montre qu'en fait, pour les jeunes qui ont fait leur service militaire, ça a été une expérience positive ou négative, individuelle, qui n'a pas forcément modifié en profondeur leur vision du monde, qui n'a pas forcément modifié en profondeur leur manière de se comporter en société, et à la rigueur, heureusement, parce que ce n'est qu'une période de 12 mois, en fait, ou 10 mois après, donc c'est assez normal. Ça a pour beaucoup été une parenthèse, mais ce qu'on constate surtout, c'est que sur le plan collectif, le fait que chaque classe d'âge masculine fasse un service militaire n'a pas eu d'influence sur l'état de la société, sur les grandes évolutions sociopolitiques que la France a connues dans la seconde moitié du XXe siècle.
Quand tu auras fini ton service militaire, tu échangeras des souvenirs avec ton père. Vous parlerez des mêmes filles, des mêmes cuites. Et dans 20 ans, ton fils te racontera la suite. Tout le monde sera content, vous direz c'était le bon temps. Est-ce que c'était chiant mon adjudant? Petit soldat, va, tu seras caporal, va, général, va, le moral, si tu l'as pas, petit soldat.
Émilie Guillaumin, vous êtes ancienne militaire et écrivaine. Vous avez écrit Féminine et l'un de vos chapitres s'intitule J'aurais voulu être militaire.
Tout à fait. C'était même le titre initial de mon roman. Et on m'a gentiment soumis l'idée d'un titre un tout petit peu plus commercial. Effectivement, j'aurais voulu être militaire, c'est littéralement le thème de mon premier roman. Féminine, c'est le nom des femmes qu'on donne à l'armée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de guerrières, il n'y a pas de soldates, il y a des féminines. Donc on dit, il y a trois féminines dans la section là-bas. Et moi-même, j'étais une féminine. Voilà, donc c'est devenu le titre du livre. Et effectivement, il y a tout un chapitre qui traite de cette question de comment une jeune fille citadine, parisienne de 27 ans, qui a fait des études de lettres, qui est journaliste sur Radio Classique, qui passe tous les matins à l'antenne, se retrouve à ramper sous les barbelés, dans la boue, du côté de Brocéliande, voilà.
Mais être militaire, c'était un rêve d'enfance ?
C'était vraiment un rêve, plus qu'un rêve. Alors j'adopte l'idée du rêve, mais il y avait un côté presque obsessionnel venu de l'enfance, puis de l'adolescence, qui est resté de manière diffuse dans mon cerveau jusqu'à 25, 27 ans. Donc je n'étais plus ni une enfant ni une adolescence, mais une jeune fille avec un cerveau a priori bien construit et avec toujours cette espèce d'idée derrière la tête que je ne menais pas la vie que je n'aurais dû mener. Et pour moi, ce manquement, cette lacune, cette faille prenait le visage, a toujours pris le visage jusqu'à ce que je saute le pas, de l'armée. Donc c'est un peu curieux, mais il en était ainsi. J'avais vraiment cette espèce de vision très romantique, très romanesque du métier des armes. Et il me semblait, étant donné que j'étais quelqu'un qui ne tenait pas en place, j'étais pas forcément très à l'aise avec ma féminité. J'ai mis du temps et de manière très tardive à accepter que j'étais une femme. Pour moi, la vraie vie, c'était être un homme, en fait, réellement. J'admirais vraiment les récits, alors ça paraît un peu ringard dit comme ça, mais les récits chevaleresques, des personnages de chevaliers, d'espions, de personnes qui va sauver la veuve et l'orphelin, qui a une vie un peu trépidante, et surtout des vies, c'est même pas des vies héroïques, c'est des vies d'action que moi j'associais vraiment au genre masculin. Et moi, ça me... Je sais pas, il y avait quelque chose d'assez galvanisant dans cet effet de groupe, de faire des choses ensemble. Et je devinais, et ça m'a été confirmé par la suite, que voilà, ensemble, on fait des choses que seul, on ne ferait pas. Il y avait la notion de dépassement.
Il y a des films qui vous ont marqué ?
Il y avait toujours comme dénominateur commun... Des personnages, d'ailleurs avec le recul, un peu caricaturaux dans le côté mâle, mais qui, moi, m'attiraient énormément. Je pense que j'étais beaucoup virile dans ma tête. Et c'est d'ailleurs le sujet du livre. C'est la diffraction qui va se passer entre ce que je croyais de moi et la réalité.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je suis le lieutenant Schlieffer, bienvenue au 1er RDP. Est-ce qu'il y a des féminines parmi vous ? Il n'y a pas de dortoir mixte ici. Est-ce qu'il y a des filles ?
Oui.
Alors sortez des rangs, mesdemoiselles.
Je suis Jonathan, donc je me suis engagé le 6 mars 2007 au sein du 3e régiment du génie à Charleville-Mézières en tant que spécialiste dans le déminage, donc dans le génie combat. J'y aurais fait 17 ans, 10 opérations à l'extérieur. Et j'aurais commencé tout en bas en tant que soldat et j'aurais fini sergent-chef. Tout petit, comme je pense beaucoup d'enfants, je voulais être pompier. Et après, le métier des armes en soi est venu plus tard. Mais ça a toujours été quelque chose qui m'a animé, oui.
Comment ça se passe pour toi à l'école ?
Alors à l'école, très compliqué, je suis stéréotype, hein. C'était vraiment, j'étais total échec scolaire, j'ai arrêté l'école, je devais avoir à peine 17 ans, j'ai fait que 6 mois en seconde parce que pas de diplôme, on m'avait mis dans une case un petit peu là où il y avait de la place, j'étais pas du tout dans mon élément, j'étais avec des mauvaises fréquentations, donc j'ai tout arrêté. Donc c'est vrai que les un an et demi avant l'armée étaient très compliqués parce que j'étais en échec scolaire, j'allais plus en cours.
T'aurais pu mal tourner ou t'as déjà cette idée d'aller dans l'armée ?
Les mauvaises fréquentations, je les ai eues dès mes 13 ans parce que j'ai eu une enfance assez compliquée et je suis tombé assez jeune entre de mauvaises mains, on va dire, dans les quartiers où j'habitais. Et l'armée a vraiment été un échappatoire qui était nécessaire. C'est vrai que quand tu as 13 ans, tu te retrouves avec des jeunes de 16-20 ans qui sont dans la drogue, qui sont eux aussi dans un échec scolaire. Au lieu d'aller à l'école le lendemain, ça dormait jusqu'à midi. Le soir, c'était dans des garages, dans des caves, avec de la drogue et tout ce que tu peux imaginer. Donc c'est vrai que c'était pas du tout un environnement sain. Moi, j'avais un père alcoolique qui en est décédé en plus. Donc ma mère était décédée déjà avant, donc j'étais vraiment livré à moi-même, quoi.
Et tu aurais pu commencer à dealer ou à partir dans de mauvaises directions, en fait.
J'y suis passé, hein. J'ai coché cette case malheureusement de drogue, de consommation et de vente un petit peu. Mais heureusement, en parallèle, je me renseignais auprès des CIRFA déjà à l'époque, puisqu'on n'avait pas trop Internet à ce moment-là. Et du coup, ça me permettait aussi d'avoir une petite bulle d'échappatoire. Dans un délai, il fallait que j'attende au moins mes 18 ans. De toute façon, donc.
Dans votre livre, un des personnages dit : c'est simple, il faut avoir un problème pour s'engager dans l'armée. C'était lequel, le vôtre ?
Alors, c'est très intime comme question. C'était une absence de père, je pense. Enfin, là, je suis très simple dans ma réponse. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que j'avais un père, mais un père très âgé et avec une non-relation. Et pour moi, et j'en ai toujours souffert. Bon, là, il est décédé aujourd'hui, mais c'est toujours un manque, en fait. Et je pense, et en fait, à l'armée, il y a un peu des chiens perdus. C'est un peu l'armée des chiens perdus. Et quand vous discutez, peut-être pas dans les officiers, là, justement, quand vous discutez plutôt avec des grades plus inférieurs, il y a beaucoup ce schéma, en fait, de famille monoparentale ou de père absent et de gens qui ont besoin d'un cadre, en fait. D'un cadre, parce que il y a beaucoup de gens qui signent. Mais il y a ça chez les flics, c'est. En fait, si je n'étais pas devenu flic, je serais peut-être devenu délinquant. Si je n'étais pas devenu militaire, peut-être qu'on me retrouverait là aujourd'hui à faire des braquages. Encore une fois, il y a aussi plein de gens équilibrés à l'armée, évidemment. Mais il y a un truc de chien perdu sans collier que moi, j'avais d'une certaine manière.
Bonjour à tous, ce flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains à New York, au cœur de Manhattan. Vous découvrez l'image. En l'espace de 20 minutes, deux avions ont percuté les prestigieuses tours jumelles du World Trade Center, donc dans le quartier de Wall Street.
Alors le 11 septembre 2001, moi je suis à Tahiti, j'ai 13 ans. Donc avec le décalage horaire, moi je découvre ça le matin. En français, il me semble qu'il était 15h, 16h. Donc au réveil, je me lève, je vois ma mère devant la télé. C'est très grave ce qui se passe, c'est très grave ce qui se passe, c'est très grave ce qui se passe. Bon. Et je vois derrière elle, hein, en fond de tableau, la télé allumée, deux tours en feu et une colonne épaisse de fumée blanche qui s'en échappe.
Ouais, je me souviens très bien du 11 septembre 2001. Du coup, j'ai 13 ans. On vient juste d'emménager depuis un mois aux États-Unis. Les États-Unis, c'était un peu ambiance croisade. On a été attaqués, on nous ont attaqués chez nous, ça va pas se passer comme ça. On va y aller, on va tous les évangéliser, quoi.
Je comprends que c'est grave, mais bon, voilà, est-ce que c'est un accident, est-ce que c'est une attaque ? Enfin, c'est pas des notions que j'ai à ce moment-là. Je le comprends, en revanche, en arrivant au collège, où les professeurs nous expliquent la gravité et l'enjeu que ça a, le terrorisme, et c'est des mots que je connaissais pas, ou en tout cas auxquels je prêtais pas attention, qui rentrent à ce moment-là dans ma façon de penser.
J'étais sidéré, hein, comme tout le monde, je pense. J'ai compris qu'il se passait quelque chose dans le monde qui serait irréversible. Et puis j'ai découvert, au travers des médias, de tout ce qui s'est dit et tout, qu'il y avait... Il y avait des gens qui voulaient vraiment du mal, qui étaient prêts à faire des choses comme ça pour nous exterminer, en fait. C'est comme ça, pour exterminer ce que représente l'Occident. Et moi, je savais en m'engageant que je serais certainement amené à combattre des gens comme ça.
Toi, c'était une des raisons, la défense du pays, de l'engagement.
Oh ben oui. C'est sûr, c'est important de défendre son pays. Son pays, c'est sa maison, quoi. C'est notre nid, hein. À tous, quoi. Ici, en France, c'est important d'aimer son pays. Et de faire des choses, c'est un devoir de citoyen.
Allons, enfants de la patrie,
le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard
Laetitia Saint-Paul, députée de Maine-et-Loire. J'étais militaire d'active, officier des armes jusqu'en 2017, date de mon élection auprès d'Emmanuel Macron pour les profils dits de la société civile. Donc ça a toujours beaucoup amusé pour une militaire. Et j'ai été réélue en 2022-2024 et depuis j'ai toujours siégé au sein de la commission des affaires étrangères.
Laetitia Saint-Paul, quel métier rêviez-vous d'exercer lorsque vous étiez enfant ?
Très tôt, j'ai eu l'âme aventureuse. Ça s'est pas forcément défini de façon professionnelle dès l'enfance, mais j'avais envie de grand air et d'explorer, si j'avais pu être exploratrice. Et très tôt, au début du lycée, j'ai voulu devenir militaire et particulièrement intégrer Saint-Cyr. J'ai grandi en Bretagne, à Rennes, et la place des écoles de Saint-Cyr, Couët-Quidan, était importante. Il y avait tout un imaginaire, le « il faut pas être sorti de Saint-Cyr », faire Couët-Quidan, c'était très valorisé. Alors que je ne viens pas du tout d'une famille de militaires. Et comme j'habitais Rennes, on avait facilement l'occasion de rencontrer des officiers, par exemple, de l'école militaire interarmes qui étudiait à Couët-Quidan. Donc il y avait quand même cette présence, et j'ai souvenir d'avoir rencontré un jeune engagé qui, jusqu'alors, était démineur. Et il m'avait marqué, je m'étais dit, mais quel métier extraordinaire. Il y avait toutes ces représentations, déjà à la télé, d'enfants qui sautaient sur des mines. J'ai ce souvenir que je trouvais que son métier avait du sens, qu'il était plus grand que soi-même.
Les raisons de s'engager dans l'armée sont multiples. Les moyens de l'intégrer également. Les militaires qui témoignent dans cette série sont tous nés dans les années 80 et n'ont donc pas eu à faire de service militaire. Revêtir l'uniforme est un choix qu'ils ont fait en s'engageant directement dans les rangs ou en passant par une école. Saint-Cyr pour devenir officier ou Saint-Mexan pour en sortir sous-officier. En France, il existe aussi 6 lycées militaires avec des classes préparatoires. Gadiel, aujourd'hui capitaine dans l'armée de terre, a intégré le Prytanée National Militaire de la Flèche en classe de première.
Ce qui me marque d'emblée, mais c'est ce que j'étais venu chercher, c'est qu'on n'a pas de surveillants, c'est-à-dire qu'on a des cadres militaires. Ensuite, qu'on est mis tous en uniforme. Et à partir de là, moi, j'étais bien. Au sens où, autant au lycée, chacun cherche à créer la différence. Et donc, la différence, elle se fait pas tant par la personne, elle va se faire avec les vêtements, les sacs, le téléphone, etc. Là, on enlève tout ça, on est tous pareils. Et en fait, les rapports en deviennent que plus directs et plus naturels parce que on est tous mis sur le même pied d'égalité. On est tous habillés pareil, on est tous logés à la même ancienne, on va manger la même chose, on va avoir le même cours, on va dormir dans le même lit, dans les mêmes chambres. Et du coup, les rapports de camaraderie et d'amitié sont décuplés. De plus, comme on est en internat, ils sont continus. Donc on ne peut pas se cacher derrière l'identité. Forcément, à un moment ou à un autre, la fatigue, la faiblesse, puis on est des adolescents, donc on est en train d'évoluer, de changer, cracra, il y aura une fissure. Donc c'est là aussi où j'apprends à très vite être naturel. Ce qui, je pense, me sert aujourd'hui dans mon commandement. C'est-à-dire que je me cache pas. Je suis avec mes soldats ou avec mes chefs comme je suis, tout simplement, avec mes forces, mes faiblesses. Et ça, je pense que l'internat me l'a appris dès plus jeune âge. La vie en collectivité, dans une uniformité, et le contact de mes cadres me convainc que c'est ce que je veux faire à partir de là. Je comprends que ce que je veux, c'est vraiment être cadre de contact et commencer pas comme soldat, contrairement à Rémi par exemple, mais je veux commencer par commander mon groupe de combat avec mes 8 à 10 soldats sous mes ordres. Et donc je sais que fin de terminale, je veux intégrer Saint-Mexan.
La première unité qui atteindra l'objectif aura l'honneur de lever les couleurs du régiment samedi. Est-ce que c'est clair ?
Oui, mon lieutenant !
Non,
the full metal jacket. Do you understand?
Sir, yes, sir.
Do you understand?
Rémi, tu fais ta journée d'appel à la défense, qui est à l'époque une journée qui remplace le service militaire. Est-ce que tu t'en souviens
comment
ça se passe?
Ouais, j'avais fait la JAPD à Montpellier, c'était à l'école d'application d'infanterie. J'avais beaucoup d'attentes sur cette journée, évidemment j'étais extrêmement déçu. J'espérais quelque chose de militaire, et au final j'ai pas du tout eu, on a fait des premiers secours... Des tests de pour voir si on était des illettrés ou pas, mais c'était pas ambiance militaire, quoi. Après, c'est normal, c'est des lycéens, les 90%, ils ont pas là pour s'engager. C'est normal.
Laetitia Saint-Paul, à l'adolescence, vous décidez de vous lancer dans un cursus pour devenir militaire. Comment on fait pour devenir militaire?
En tout cas, pour ma part, ça a plutôt été semé d'embûches. La première, autant ma famille m'a soutenue, ça les a pas franchement surpris, quand bien même, je vous dis, mes parents tenaient un bureau de tabac, donc c'était plutôt orthogonal. Mon premier obstacle, ça a été lorsque j'ai rencontré ma conseillère d'orientation. Donc j'ai exposé, j'étais bonne élève, en classe européenne d'allemand, enfin, je vais exposer, ben, voilà, je veux faire Saint-Cyr, coéquidant. Et là, elle me regarde. Et vous vouliez être un garçon quand vous y étiez petite? Et je suis tombée de ma chaise. Je portais des robes, des jupes qui tournent, comme les petites filles. Je m'étais jamais posé la question du genre. Enfin, c'est la première fois que ça faisait irruption dans ma vie. Et j'ai regardé au fond de moi. Je me disais, mais non, mais cette question n'a aucun sens. Enfin, je vous demande à m'aider dans mon orientation et vous questionner. Ce que je suis par essence. Et elle me regarde et me dit « Oui, j'admets, je suis un peu antimilitariste. » Et elle m'a quand même orientée vers les classes prépa militaires. Et j'avais fait des dossiers et civils et militaires pour entrer en classe prépa HEC. Et j'étais admise dans mon premier choix, donc qui avait un bon taux de réussite et qui était assez proche de chez moi, donc au Prytanée National Militaire de la Flèche. Voilà, j'étais pas au bout de mes peines.
Comment ça se passe lors de votre arrivée là-bas?
Alors, lorsque je suis arrivée, ça se passait presque, j'ai envie de dire, comme dans l'imaginaire qu'on a des campus, où on était les bleus, d'ailleurs, on était habillés en bleu marine, vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Les bleus, je me souviens qu'on s'asseyait en ronde sur la pelouse et qu'on se faisait draguer, on n'était pas beaucoup de filles. Et au bout de quelques semaines, ils appelaient ça le bahutage, la constitution des familles tradies, et j'ai compris qu'en fait... nous étions l'ennemi à abattre. Il fallait faire démissionner les filles qui n'avions rien à faire là. Les voleuses de concours. Donc le premier mois se passant de façon complètement normale, conformément à toute ma scolarité. Et puis au bout d'un mois, l'harmonie a été rompue et les garçons ont cessé de nous parler. En tout cas, les garçons qui préparaient Saint-Cyr. Ils appelaient ça l'indifférence courtoise. Je ne vois pas ce qu'elle avait de courtoise. A priori, c'était des outrages sexistes au quotidien, dans le principe de refuser de parler aux femmes. Puis finalement, moi, j'avais mes amis, d'autres camarades qui préparaient les concours des autres armées. Je travaillais parce que j'étais là pour réussir. Et déjà, je considérais que j'allais pas laisser des abrutis décider de ce que j'allais faire de ma vie. Je me suis dit, mais rien ni personne décidera à ma place. C'est ce qu'on disait déjà en prépa, les femmes sont pas faites pour Saint-Cyr ou Saint-Cyr n'est pas faite pour les femmes, ce qui est un scandale, c'est une grande école de la République française, on n'est pas en Iran ou en Afghanistan. Donc la question se posait pas et comme je vous dis, je suis un peu têtue.
Gadiel, en 2007, tu es bachelier, tu vas intégrer Saint-Mexan, et en attendant d'intégrer Saint-Mexan, qui est l'école des sous-officiers, tu pars à l'université. Quelle est ton expérience de l'université, qui est un milieu quand même assez différent de l'armée?
Donc effectivement, je sors de lycée militaire, où j'avais mon uniforme, mes journées qui étaient rythmées, telle heure réveil, rassemblement, rasage, à telle heure je vais manger, à telle heure je me couche, à telle heure on doit éteindre les lumières...
à retour chez mes parents et retour à l'université, un site que je trouve énorme, qui pullule de monde, des tenues qui du coup me choquent, le contraste est trop fort pour moi. Les barbes, les cheveux, les sacs, ouais. En plus le jeune se cherche, donc c'est le moment où on a des pantalons qui peuvent être usés, ouais, chose qui n'était pas possible, c'était inacceptable d'avoir une tenue qui n'était pas correcte. Donc effectivement je prends ce contraste en pleine face. Les cours, on était en petite classe entre 25 et 30, si le professeur ne donne pas la parole on ne parlait pas, quand il rentre dans la salle on se lève. Là je rentre dans des amphithéâtres énormes, où ça parle, ça discute, les gens sont sur leur téléphone. Oui, ça fait beaucoup de changements pour moi.
Mais ça te choque ou...
Moi, ça me choque, oui. Parce que j'ai fait de la discipline et de la rigueur qu'on m'a inculqué, la mienne. Et en fait, quand je discute avec mes nouveaux camarades, en fait, je ne comprends pas où ils vont. Mais eux non plus, à ce moment-là, ne savent pas où ils vont. Alors que moi, mon projet de vie est défini. Enfin, là, j'ai l'impression de perdre du temps. Et le premier jour, je me souviens qu'on était en cours, une des rares fois où c'était un cours en salle, avec un petit effectif, on attaquait un TPE. Des élèves rentrent dans la salle, les élèves, oyez, nous allons arrêter les cours, machin, nous prenons en otage la faculté, etc. Bon, le professeur les envoie bouler, et là les mecs résistent, ah non. Alors, chose qui pour moi n'était pas possible. Le chef, en l'occurrence le professeur, a dit, terminez, vous sortez. Finalement, les élèves ressortent, on termine notre cours, et quand on sort du cours, en fait, on se rend compte qu'ils sont en train de barricader toute la faculté, et à partir de là, la faculté est bloquée. Ça a été un passage complexe, ce temps en faculté.
Mais ceci dit, il faut une certaine tactique pour bloquer une fac, non ? D'un point de vue stratégique, comment...
Si aujourd'hui je me retrouvais dans cette situation, effectivement, je pense que je prendrais le commandement et je pourrais apporter une certaine expertise, un certain savoir-faire. Non, parce que c'était de la barricade simple. C'était du truc de forcené, du bloqueur de route. Mais effectivement, j'y avais jamais repensé. Mais aujourd'hui, oui, je vois comment bloquer ça et comment être bien plus perturbateur, si on voulait, pour les forces de l'ordre.
Devenir mécanicien et se mettre au service de la paix. Devenir technicien et prendre des responsabilités. Devenir cadre et s'ouvrir aux autres. Rares sont les entreprises qui vous forment à un métier, et bien plus qu'un métier. Appelez le 3240, dites armée de terre.
Bénédicte Chéron, au début des années 2000, avec la suspension du service national, l'armée se présente comme une entreprise, comme une autre, notamment dans ses publicités. Que dire de cette présentation ?
Parce que précisément, on était dans un moment, c'est-à-dire que ces campagnes de recrutement, de la professionnalisation, qu'on a beaucoup, on l'appelle pour l'armée de terre la campagne des 400 métiers. On recrutait des boulangers pour leur mettre un casque, des techniciens, des mécanos pour leur mettre un casque sur la tête. Mais l'idée, c'était qu'on recrutait d'abord des compétences techniques ou des jeunes qui voulaient bien se former dans ces compétences techniques. C'est une espèce d'aboutissement de ces décennies de récits sur les armées comme formatrices professionnelles, comme pourvoyeuses de services à la jeunesse, ce qui a vraiment été le cas dans les années 80 et 90 dans le service militaire. Donc ça, c'est d'abord une espèce d'aboutissement. Il y a un second facteur d'explication à cette manière de raconter les armées, qui est le fait que dans les années 1990, dans la décennie qui suit la fin de la guerre froide, il y a vraiment, dans le discours politique, diplomatique, même dans la recherche en relations internationales, un espoir qui s'établit de la possibilité d'un triomphe du modèle de la démocratie libérale dans le monde, et que la conflictualité armée va bien sûr continuer d'exister, mais de manière un peu résiduelle. On est dans la suite de toutes les opérations de maintien de la paix ou de rétablissement de la paix des années 90, qui ont été, on le sait, pas toutes extrêmement fructueuses, et parfois absolument tragiques. Mais ceux qui évoluent dans les années 90, et on ne peut pas leur en faire le reproche, évolue dans un contexte qui est encore marqué par cet espoir de la paix libérale. Et donc l'hypothèse de l'engagement combattant, l'idée d'associer vraiment très directement aux yeux des Français les armées à l'engagement combattant, ne va pas de soi, apparaît encore comme très clivante, dans un contexte aussi où il faut que les armées recrutent, et singulièrement l'armée de terre, massivement, parce que les appelés ne vont plus être là quelques années après. Donc il y a vraiment cette idée, dans un contexte de chômage de masse, que ce qui va fonctionner, c'est ce recrutement très professionnel au sens où très banalisé en fait en quelque sorte dans la fonction militaire, et ça n'a pas si mal fonctionné que ça, parce qu'on, ce qu'on observe aussi, c'est que les campagnes de recrutement, elles fonctionnent quand il y a une résonance avec ce qu'est la société à un moment donné. Or, à ce moment-là, probablement que c'était ce qui fonctionnait auprès de la société française. On voit qu'elles ont évolué, ces campagnes de recrutement, qu'elles ont une tonalité un peu plus combattante aujourd'hui, même si c'est évidemment toujours un peu tamisé, parce qu'on ne recrute pas en promettant du sang et des larmes, mais c'est en tout cas un peu moins elliptique aujourd'hui.
Venez vous renseigner sur les 10 000 postes proposés chaque année par l'armée de terre. Présentation des métiers de la défense, entretien personnalisé, test d'évaluation, mais aussi des t-shirts, des matelas pour matelas.
J'avais un copain que j'avais rencontré qui s'était engagé dans l'armée.
Timothée.
Il avait aussi fait un parcours de forestier comme moi. Et c'est vrai que bon, les mettre dehors aussi, un peu comme on avait pas mal de points communs en fait, de sensibilité commune. Et ça, voilà, ça a peut-être fait pousser une petite graine dans ma tête. Et bon, je me suis dit que c'était une opportunité aussi de, voilà, de prendre un peu de temps de ma jeunesse pour avoir un peu d'aventure, quoi. J'ai eu un CDI très jeune, j'étais en CDI à 20 ans, je crois, peut-être même pas. Puis je suis arrivé à 23 ans et je me suis dit quand même, l'armée, ça me trotte, ça me dirait bien, les chasseurs alpins, allez, je le tente. Donc je préviens mon patron pour qu'il puisse quand même prendre des dispositions, qu'il ne soit pas pris de court. Et puis je suis allé dans un centre d'orientation, j'ai fait mes tests à Lyon, ça s'est très bien passé. Hein. Et on m'a donné 3 choix, je crois. Il y avait le 27, 8e RPIMA et 3e RPIMA, si je me rappelle bien.
Le RPIMA.
RPIMA, c'est régiment parachutiste d'infanterie de marine. Et BCA, c'est bataillon de chasseurs alpins.
Les motivations, c'était quoi? C'était le drapeau, l'argent?
Non, l'argent, non. Sûrement pas. Non, vraiment l'aventure, la montagne, l'esprit de corps qu'on peut trouver dans une armée. On a tous entendu parler de l'armée, quoi. On savait quand même qu'il y avait des valeurs et tout, bon. J'ai pas forcément entendu du bien de l'armée autour de moi, mais ni du mal non plus, quoi. Donc, le mieux, j'ai fait ma propre opinion en y allant.
Ils disaient quoi, ceux qui disaient du mal ou du bien?
Qu'il fallait être soumis, qu'on envoyait sacrifier des gens pour leur pays, bon, tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Hein. Que les militaires, c'est des fachos, que tous ces trucs-là, quoi. Toujours le refrain habituel, hein, qui est souvent dit d'ailleurs par des gens qui n'ont même pas été dans l'armée, qui n'ont même pas fait leur service.
Je comprends pas, tu t'engages ou c'est un stage que tu fais?
En fait, si je veux le régiment que je veux, je dois faire une prépa militaire pour avoir mon dossier.
Maintenant, il faut faire une prépa pour rentrer dans l'armée. En fait, moi, je croyais que tu te pointais et hop, c'est parti.
Bon, ça dépend du régiment que tu veux, en fait. Moi, celui que je veux, c'est un des plus durs, donc ils prennent pas n'importe qui.
Mais dur, genre quoi?
Dur, genre t'en chies. Genre, pour dormir, tu creuses un trou. D'ailleurs, de toute façon, tu dors pas. T'as du combat, t'as un parcours nautique avec 25 km sur le dos. T'as déjà nagé avec des Rangers?
Non.
En fait, pour rentrer, t'as un test. Tu dois manger une sardine crue. Tu commences par la tête, tu manges les yeux, les viscères, les écailles.
C'est ça que tu veux faire?
C'est eux qui ont les meilleures techniques de survie. Après, je serai vraiment préparé.
Préparé à quoi?
À survivre.
J'ai démissionné de Radio Classique.
Émilie Guillaume.
Et j'ai commencé par pousser la porte d'un endroit qui s'appelle un CIRPA.
C'était un centre de recrutement.
Centre de recrutement, voilà. Je me souviens de mon premier entretien où les premières questions qui m'est posée, au-delà de quel est mon parcours, quelles sont mes motivations, c'est est-ce que vous pensez que vous êtes rustique? Ça, c'est marrant parce que c'est tout de suite, on va dans le cœur du sujet, dans le dur, comme on dit.
Et ça vous évoque quoi, rustique?
Rusticité, au début, je trouvais ça, il y avait peut-être presque un côté rigolo, un peu champêtre. J'imaginais quelqu'un dans la terre. Et après, on est rentré dans l'administratif, la constitution d'un dossier. Après, il y a des entretiens, il y a un test physique que vous passez à Vincennes. À l'issue de ça, on m'a dit que j'étais toujours dans la course, mais qu'il fallait que je muscle mon dossier et que ce serait bien que je fasse une PMS, donc une préparation militaire supérieure.
C'est votre première PM?
Pas toi?
Non, moi c'est ma troisième.
T'as appris des trucs utiles?
Bah ouais, t'apprends vachement sur toi-même, sur tout ce qui est gestion de groupe, c'est vachement intéressant.
Et les trucs techniques t'as appris?
Techniquement, ouais, par exemple l'année dernière quand j'étais chez Chasseurs Alpins, on a appris à suriner dessus en cas d'avalanche.
Pourquoi? quoi faire?
Bah comme ça, tu connais le sens de la pente, sinon t'en sais rien puisque t'es coincé. Et avec la direction du liquide, tu sais vers où creuser, donc t'as un moyen de t'en sortir.
C'est cool ça, se pisser dessus, j'aurais pas pensé.
Rémi.
Moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est un peu les trucs un peu branchés costauds, tu vois. Donc,
il y avait
genre parachutiste, les trucs troupes de marine, trucs en réputation un peu, tu vois, un peu viril, tu vois. Donc, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est le combat. Moi, je veux être, dans platoon, je veux être combattant, infanterie. Voilà. Je veux pas être dans le train, je veux pas être avec la radio. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'infanterie. Et du coup, je demande au recruteur. Quand on fait le dossier, là, en janvier, il me dit, voilà, il y a ça, ça, ça. Je lui dis, c'est quoi le plus dur? Il dit, le plus dur, c'est soit le régiment de parachutistes, soit les chasseurs alpins. Et je lui dis, bon, bah, entre les deux, le plus dur, quoi, vraiment. Il me dit, franchement, les régiments de parachutistes, ils sont tous basés dans le sud de la France. Chasseurs alpins, la montagne, l'hiver, il y a une touche de rusticité quand même en plus qui est pas négligeable quoi. Je me suis dit, allez, c'est parti. Du coup, j'ai postulé au 27e bataillon de chasseurs alpins en premier choix et je l'ai eu. Donc j'étais content.
On vous propose des régiments différents et moi, évidemment, comme j'étais toujours dans mon côté très subtil, j'ai choisi les chasseurs alpins parce que je voulais un truc bien péchu pour que mon dossier soit vraiment musclé.
Les chasseurs alpins, c'est quoi?
C'est la montagne. Ça fait des gens qui ont cette fameuse rusticité, mais peut-être encore plus que d'autres unités qui font leur entraînement toute l'année sur du plat et non pas sur de la montagne. Donc ça, je l'ai découvert à mes dépens quand mes premiers footings lors de cette PMS se sont faits sur des pentes, en fait. Donc c'est une expérience pour le corps. c'est très différent que de courir au bois de Boulogne. Mais voilà.
C'est quoi le plus dur?
Le plus dur, c'est nuit courte, entraînement tout le temps, le tir. Moi, le tir m'a beaucoup marqué.
Et à ce moment-là, vous êtes avec quelle arme et vous tirez sur quoi?
Avec un FAMAS, donc un fusil d'assaut de la manufacture de Saint-Étienne, qui est un fusil. Et qui était le fusil, je crois que depuis ils ont changé de dotation, mais bref.
Quand vous faites cette préparation militaire, vous avez d'autres camarades?
Alors on s'est un peu suivis de loin en loin, parce que 3 semaines aussi intenses, c'est vrai qu'on noue quand même des liens assez forts, même avec des gens que dans la vraie vie, entre guillemets, vous n'auriez jamais croisé. Il y a un peu un syndrome du loft en fait, on dort ensemble, on mange ensemble, on fait des efforts ensemble.
Mais entre jeunes.
Entre jeunes, alors entre guillemets, parce que moi j'avais 27 ans, j'étais la vieille, et ils avaient tous plutôt entre 18 et 24, plutôt des mecs.
Ça change de radio classique l'ambiance.
Oui, l'ambiance changeait de radio classique, tout à fait, ouais. À l'époque, je ne sais pas si ça a changé, on ne pouvait pas s'engager dans l'armée après 29 ans. Donc moi, quand j'ai eu ce wake-up call à Radio Classique, il y avait un peu le côté, j'ai 27 ans, il faut que tu le fasses, sinon tu le regretteras toute ta vie, tu ne pourras jamais t'engager. Voilà.
Je suis rentré là-bas, à Nîmes, un matin, bonheur, ça ouvrait juste. Je dis voilà, je vais me renseigner pour rentrer dans l'armée, je voulais savoir comment ça se passe. Et le gars qui était là, il m'a dit, déjà, la première chose qu'on apprend, c'est à repasser ses chemises. Parce que j'avais pas de chemise repassée. Ça m'a fait rire. J'ai trouvé ça, tiens, c'est marrant. Et puis, du coup, j'ai pris rendez-vous avec un orienteur. Et puis, voilà. Et puis, il m'a parlé des différents corps d'armée. Je suis allé le voir plusieurs fois. Donc, voilà, il m'a posé des questions sur moi, sur ma vie et tout. Et voilà. Et puis, lui, il m'orientait beaucoup, troupes de marine et parachutistes. RPIMA, mais moi vraiment la montagne ça me plaisait quoi. Pour moi c'est l'élite. C'est très physique, c'est très rustique, c'était à l'époque beaucoup de combats guérilla en montagne, en zone urbaine aussi, parce qu'il y a des petits villages ou des choses comme ça dans les montagnes aussi qu'on rencontre. C'est rester sur le terrain longtemps, en forme, par tous les temps.
Tu étais sportif déjà?
Non, mais j'étais en forme. J'étais quand même bûcheron, j'ai grandi dans les Cévennes, dans la montagne. Je savais marcher avec du poids déjà depuis tout petit. Hein. Et puis bon, oui, j'avais de l'endurance hein. Déjà naturellement. C'est physique, c'est dehors, c'est rustique. Voilà, c'est chaud, c'est froid, c'est oui, c'est non. Moi, ça me convient comme ça.
« Est-ce que vous avez des mots d'argot militaire que vous avez découverts et que vous employez maintenant encore ou qui vous ont marqué ?
J'ai une phrase qui est très vulgaire, mais que j'adore. Donc, je ne sais pas si je peux la dire. Parce qu'il y avait alors, il ne faut pas que je me plante, mais il y avait un instructeur qui disait ça régulièrement aux mecs de la section. En fait, au début, on arrive, tout le monde est un peu mal dégrossi. Donc, on a des postures de civil, c'est-à-dire qu'on est courbé. On a les mains dans les poches, on a la capuche, donc évidemment on enlève la capuche. Là je parle de l'avant-treillis, mais les premiers jours quand on est en civil. Et il y avait un instructeur qui disait régulièrement au mec, mets pas tes mains dans tes poches, si t'as les couilles qui explosent, tu seras manchot. Voilà. Mais en fait je trouve ça très drôle, voilà, mais je pense que je suis une des rares femmes à trouver ça très drôle.
C'était J'aurais rêvé d'être militaire, avec Laetitia Saint-Paul, Bénédicte Chéron, Émilie Guillaumin, Timothée, Rémi, Gadiel, Jonathan et le colonel Jean Michelin. Extrait de film, Les combattants de Thomas Caillé, la 317e section de Pierre Schoendorfer, Charlie Bravo de Claude Bernard Aubert, Jared de Sam Mendes, Voir du pays de Delphine et Muriel Coulin, Ni le ciel ni la terre de Clément Cogitor. Archivina, Ingrid Lecointre. Recherche musicale, Antoine Huilleuse. Prise de son Paris, Anthony Thomasson. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Une série d'Adrien Mora réalisée par François Test. Références et documentation sur franceculture.com et l'appli Radio France. J'ai su.